marcher dans les goulags, la galère ou à coups de barre de fer. On ne s'est jamais laissé faire. Aujourd'hui comme hier, on reste fainéants. Queen rouge et front homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elle porte paillettes, talons hauts et revolvers.
Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société. Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société.
La normalité a lesté nos passés de morts injustifiées, de gens assassinés dont le seul crime était d'exister.
Je pense aux PD déportés.
Je pense à se jeter dans un fleuve.
Je pense à celles qui subissent les électrochocs en HP.
Je pense aux trans-pd Gwyn violées.
Je pense aux trans-psychiatrisées.
Je pense aux sorcières brûlées.
Gwyn rouge et pro-homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elle porte paillettes, talons hauts et revolvers.
Je pense à ceux qu'on tabasse jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer.
Je pense à ceux qu'on expulse et dont on apprend la mort deux semaines après.
Je pense à celles en prison.
Je pense à celles qui ont pété un plomb.
Je pense à tous ces frics. Et non, je suis pas triste. Parce que la force qu'il a fallu pour résister à tout ça, c'est un des trucs qui me pousse aujourd'hui au combat. Ma force, ma puissance, je l'appuie aussi là. Et quand je lutte, je les sens derrière moi.
Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société. Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société.
Queen rouge et faux homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elle porte paillettes, talons hauts et revolvers.
Et non, mon modèle à moi, c'est pas Madonna. Je claque pas toutes mes thunes au marais. Stonewall, c'est quoi? C'était des émeutes, pas une série télé. En 69, contre les flics, les drag queens vénèrent. T'as vu ce qu'elles ont réussi à faire? Elles les ont mis à l'amende sévère.
Je préfère exploser la binarité plutôt que d'être intégré. Parce que je peux pas oublier que quand t'es trans, t'as deux fois plus de risque de te faire buter.
Queen rouge et front homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elle porte paillettes, talons hauts et revolvers.
Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société. Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société.
Queen rouge et faux homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elle porte paillettes, talons hauts et revolvers.
Deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétéroflic, dans notre vocabulaire.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir, donc pour son édition, une de ses deux éditions mensuelles. Donc la semaine dernière, on n'a pas pu assurer, enfin il y a deux semaines, on n'a pas pu assurer, désolé, on était trop peu nombreux. On était un, au meilleur des cas. Et cette fois-ci, on est deux, voilà. Bientôt, on sera de nouveau 3-4, mais voilà. Et pour l'instant, Jean-Mathias et Sophie sont un peu bloqués ailleurs. Donc c'est Michel au micro et c'est José la technique qui vous parle. Vous venez d'entendre un morceau de Vice, Héralement Déviant, qui s'intitule Nos grands-mères. Et c'est un morceau qui est une espèce de, comment dire, de pied de nez de José, parce que ce soir je vais vous présenter un livre sur lequel il y a beaucoup de réserve, un livre de Renaud Garcia qui s'intitule Le désert de la critique, qui a été publié à l'Échappée très récemment, je crois en septembre, au troisième trimestre 2015 en tout cas. Et c'est un livre qui, comment dire, ça va en quelque sorte s'en prendre, attaquer de façon un peu polémique, intéressante aussi, tout un tas de discours de la déconstruction, des discours de gauche. Donc ils essayent, si vous voulez, c'est à l'intérieur du débat entre les différentes gauches, les différents trucs canards, les différents machins, qui s'opposent encore, pour souvent de bonnes raisons aussi d'ailleurs, parce que c'est assez vivant. Et donc lui, son idée, c'est que, au nom de la déconstruction et au nom de, comment dire, de la suspicion généralisée envers toutes les formes de domination, on en est arrivé à finalement à produire un discours qui n'a plus aucune force critique. Pour résumer ça un petit peu brutalement, on pourrait dire trop de critique tue la critique. Il faut un moment s'arrêter, c'est le moment, ce qu'il appelle le moment conservateur, et comment dire, et essayer de se réunir pour lutter ensemble. Et d'après une interview que José a lue, d'après son livre, juste pour Bruno Garcia, justement, l'idée, ce serait que ce moment commun, ce moment où on se réunit tous pour lutter ensemble contre, par exemple, le capitalisme, c'est pas possible parce qu'on est trop occupé à déconstruire et à chasser chez les uns et chez les autres la domination implicite ou cachée. Et donc là, alors là c'est rigolo parce qu'en même temps c'est encore un livre qu'on pourrait dire qui au nom du commun fait de la division. Bon, ça c'est un vieux truc chez les gauchos. Je me rappelle de militants trotskistes il y a très très longtemps me racontant comment ils attaquaient les autres trotskistes en criant unité, unité pendant les manifestations. Ça c'était avant de se balancer des coups de pied dans la tête. Bon, je pense que c'est un lieu commun des milieux progressistes de justement s'attaquer les uns les autres au nom de l'unité. Bon. C'est pas... au moins, comment dire, ça prouve qu'on est vivant. on ne cherche pas à se réunir sous un drapeau qui serait, comment dire, fictif ou autoritaire. On préfère s'engueuler les uns les autres. Bon, le souci, c'est quand nos ennemis, nos vrais ennemis en face, en profitent pour prendre le pouvoir et nous opprimer tous ensemble. Donc, voilà un petit peu le contexte. Alors, moi, c'est un livre qui, malgré les nombreuses critiques que m'a envoyé José par mail, c'est un livre que j'ai trouvé quand même intéressant, tant qu'on en reste à un niveau, je dirais, théorique. Le souci est évident, c'est quand on passe plus à un niveau politique. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés d'application. Des difficultés des idées en question, des idées de Renaud Garcia, dans son livre qui s'intitule Le désert de la critique. Alors, je vous le présente rapidement, je vais m'attarder sur 2-3 points dans le bouquin avec lesquels je suis plus ou moins d'accord, que j'ai trouvé intéressant. Et puis, à la fin, on abordera un petit peu la question polémique, même s'il est possible que j'y vienne assez régulièrement en réalité. Voilà, donc c'est un bouquin qui commence, donc le bouquin de Renaud Garcia sur le désert de la critique, qui commence par justement attaquer le mot de déconstruction. Et malgré tout, je trouve ça intéressant, parce que ce mot vient d'où ? Il vient d'un philosophe qui s'appelle Jacques Derrida, philosophe qui est connu, élu finalement par une très faible minorité de gens, qui est compris par une encore plus faible minorité de gens, à mon avis. C'est pas quelqu'un que je porte dans mon... Enfin, je porte pas son œuvre dans mon cœur, à dire vrai, parce que j'ai l'impression, quand je lis ça, de m'embourber dans une espèce de marshmallow indigeste et, flou. Mais bon, il a été lu, semble-t-il, avec profit par d'autres que moi, donc tant mieux pour eux. Et ce qui est amusant, c'est que ce mot, donc issu d'un tout petit milieu, d'une branche vraiment minoritaire de la philosophie et des mouvements politiques, ce mot a contaminé l'ensemble, finalement, notre Garcia, l'ensemble du vocabulaire politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors qui déconstruit ? Manuel Valls déconstruit, par exemple, puisqu'il a déclaré, avec le succès que l'on sait, qu'il fallait déconstruire le programme du Front National. Ça a donné le style, le site et la vidéo Stop Jihadisme. On imagine l'effet de ce genre de truc sur les jeunes. Et donc le gouvernement français aussi, lui, s'est essayé à déconstruire les argumentaires des groupes islamistes. Alors, mais aussi, alors c'est assez amusant parce qu'il y a aussi le syndicat Sudrail qui appelait la SNCF à s'inspirer du groupe Casino qui, à travers un guide managérial, entend déconstruire les stéréotypes et vaincre les préjugés sur l'apparence. Donc Sud invite la SNCF à déconstruire comme Casino, c'est curieux ça. Après il y a aussi Corinne Lenoir, par exemple, doyenne de l'Institut protestant de théologie, qui confessait au journal La Croix qu'enseigner s'apprendre à se mettre ailleurs, à se déconstruire pour mieux apprendre à se mettre ailleurs, à se déconstruire pour mieux reconstruire. Et puis enfin, quand même, il fallait pas l'oublier, lui, il y a aussi Éric Zemmour qui déconstruit. Donc lui, il a voulu déconstruire les déconstructeurs. Alors tout le monde veut déconstruire. Alors ici, je suis pas sûr qu'il faille accorder trop d'importance à cette mode langagière. Le mot déconstruire a une espèce de chic. Déconstruire, c'est vachement mieux que de dire critiquer, par exemple, ou c'est vachement mieux que de dire analyser. Ça fait plus intelligent. Après, peut-être que ici, Garcia, lui, va opposer cet usage, l'usage du mot déconstruire, au terme de démystification, par exemple. Et lui, il suppose que un changement, finalement, d'usage dans les mots peut être le symptôme d'un changement dans la manière d'appréhender le réel et, par voie de conséquence, dans la manière d'exercer le jugement critique. Ici donc, il suppose que l'introduction de ce vocable dans le vocabulaire politique, du vocable déconstruire, indiquerait peut-être que justement on n'exerce plus son jugement de la même façon. J'avoue que j'ai du mal. Je trouve que c'est peut-être accorder trop d'importance à un mot ou à une mode, même plus qu'à un mot. Et ici, malgré tout, par exemple, démystifier, ça veut dire montrer ce qui se cache derrière quelque chose. Mais quand on déconstruit un truc, après tout, on peut montrer aussi ce qui se cache sous la construction, les fondements, par exemple. Donc je suis pas du tout sûr que le terme déconstruction porte avec lui un mode de pensée. Ça se discute. Il est peut-être symptomatique d'une mode. C'est un mot qui finalement peut-être ne signifie plus rien. Mais justement, à la rigueur, dans ce que cite Garcia, à part Sudrail, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit des gens qui pensent. Et je ne suis pas sûr que si j'utilisais les mots critiquer, ils penseraient beaucoup plus. Par exemple, si on prend, déconstruire le programme du Front National, ça c'était Valls. Bon, on pourrait dire critiquer ou analyser le programme du Front National. Qu'est-ce que ça change ? Pas grand chose, à mon sens. Donc bon, là-dessus, je vois ce qu'il veut faire, je vois ce qu'il veut dire. Après, bon, je suis pas certain que on puisse partir d'un l'usage d'un mot pour dénoncer un mode de pensée qui se serait généralisé. Ici, peut-être que Garcia, comme la tendance, comme pas mal de gens de sa formation, je sais de quoi je parle, a tendance à accorder trop d'importance aux mots. Peut-être que beaucoup d'autres gens n'en accordent pas assez, mais peut-être que les profs de philo en accordent beaucoup trop. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que malgré cet acharnement léger, hein, parce que ça fait 3 pages, pas grand-chose, sur le mot « déconstruire », en fait, la vraie cible de Garcia, la vraie cible théorique, je pense que c'est Foucault. Foucault, qui n'était pas toujours, loin s'en faut, d'accord avec Jacques Derrida. Les deux ont été souvent associés. En réalité, ils étaient souvent sur des chemins plutôt différents. Et l'idée de l'idée de Garcia, c'est qu'il voit là-dedans une espèce de symptôme. Enfin, il voit dans Foucault une espèce de symptôme, puisque Foucault est mort en 2014. On a fêté le 30e anniversaire de sa disparition. Il a été célébré. Foucault a été célébré par tout le monde. Il y a une tonne de bouquins qui ont été publiés sur lui. Là encore, il y a un élu du 4e arrondissement, un élu du Parti Socialiste qui a rendu hommage à Foucault. Donc, il y a 30 ans aujourd'hui, disparaissait Michel Foucault. L'homme, le militant et le philosophe manquent, mais continuent à nous éclairer. 30 ans, et pourtant, ses analyses des dispositifs de pouvoir, du néolibéralisme, du système carcéral, de la folie, de la sexualité, sont plus que jamais d'actualité. Son œuvre et ses combats sont une source inépuisable d'inspiration. Il y a des tas de moments où je suis vraiment pas d'accord du tout avec Foucault. Vous avez pu entendre qu'on le critiquait ici souvent, mais j'ai du mal à croire que Foucault puisse inspirer le Parti Socialiste de quelconque manière que ce soit. Ça je peux pas y croire. C'est-à-dire que là, tout ce que je me dis en lisant ça, c'est que ce député du Parti Socialiste a un bon attaché de presse qui a dû ouvrir la page Wikipédia sur Foucault et prendre les éléments qui lui semblaient intéressants. Et en gros, il s'agissait de rendre hommage à une espèce de type qui actuellement est à la mode, qui est édité, etc., etc., mais bon, et qui est mort, François Hollande, disciple de Michel Foucault, Manuel Valls, disciple de Michel Foucault, et la déconstruction, non, j'y crois pas. Ces gens-là, c'est plutôt des disciples de Hayek. Alors, peut-être que Foucault était un admirateur secret de Hayek, il y en a certains qui le défendent actuellement comme idée, forcément faux, mais en tout cas je pense pas que l'influence néfaste de Foucault s'exerce sur le gouvernement actuellement, malgré tout, tout simplement parce que les hommes politiques ont besoin en règle générale d'idéologies beaucoup plus simples pour faire avancer leur bille, et Foucault, c'est quand même beaucoup trop complexe, beaucoup trop subtil, beaucoup trop varié. Enfin, je vois pas trop quels usages il pourrait en faire. Donc là-dessus, il y a 2-3 bricoles qui sont quand même assez amusantes. Et malgré tout, comment dire, malgré, enfin, je pense vraiment que le bouquin de Garcia est un bon bouquin. Après, j'ai tendance aussi à penser que il accorde peut-être trop de poids à l'histoire des idées dans l'histoire actuelle. Je suis plutôt cynique et je crois plus au pouvoir, comment dire, au rapport de force, aux stratégies fondées sur éventuellement le prestige, l'influence et l'argent, qu'à la lutte des idées dans la politique. Tout ça, ça me semble. Il me semble que les querelles philosophiques sont extrêmement secondaires quand on parle des querelles qui sont, par exemple, Parti Socialiste, pour ne citer que lui. Mais pareil pour ce qui s'appelle maintenant les Républicains, ils n'arrêtent pas de changer de nom alors que c'est toujours la même chose. Bon, ceux-là, je les vois pas, en fait, lutter sur le terrain des idées en réalité. Donc là-dessus, bon, ce serait peut-être la critique que je ferais dès le départ, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais sur l'autre courant, sur le courant des, comment dire, des luttes un peu minoritaires qui sont en nous intéresse et avec lesquelles on est plutôt d'accord. Donc, là-dessus, j'y reviendrai, mais déjà pour commencer, je pense que l'idée de Garcia selon laquelle il y aurait une influence décisive au niveau social et politique de Michel Foucault, de la déconstruction et tous ces trucs-là, ça me semble tout simplement faux. On y reviendra plus tard, en attendant faire une pause musicale.
Inventif pour nous anéantir sans pitié. Une bande de nantis assujettis des pays entiers. La vérité fait s'arrouter, tout va se décanter. Dieu seul fera les comptes, choisis bien dans quel camp t'es. À quoi nos libertés se limitent? À aller voter, acheter une télé, un grand canapé pour s'y vautrer. Mater les débats futiles, quotidien, les plateaux pleins d'idiots utiles et de savants qui servent à rien. C'est pas la fin de la partie, poteau, ne sois pas triste. Sors de l'apathie, relève la tête comme les apatistes. Recharge les batteries, recharge les accus. L'histoire écrite par les vainqueurs, corrigés par les vaincus. Fais pas ton planqué, ils s'attaquent à nos acquis. Il nous manque un Gracchus, Babeuf ou un Blanqui. Nos vies, tu parles d'un sacré gâchis. Depuis qu'on s'est marché, on soumet sans broncher à la hiérarchie. Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France. Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France.
S'accaparer de nouveaux marchés, créer de nouveaux besoins, fomenter de nouvelles guerres, en prétendant faire le bien. La propagande fait rage et nos petits cerveaux épongent tous leurs messages bâtis sur le mensonge. La télé ronge nos méninges, tous amnésiques comme Jason Bourne. Si l'être humain descend du singe, il y retourne. Pulsion négative, valeur à l'envers, névrose collective, HP à ciel ouvert. Je me sentais bien intégré, j'en ai des regrets. S'adapter à cette société malade, c'est être cinglé. Qu'est-ce qu'une démocratie sans peuple et sans citoyens? À part une dictature qui n'a pas besoin d'user du gourdin. Corps social engourdi, mais sûrement pas à court d'idées. Pour briser le nœud gordien de la fatalité. Voter est accessoire, je crois pas en qui que ce soit. J'ai préféré prendre la parole que donner ma voix.
Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France. Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France.
Nous sommes passés les révolutionnaires.
On baissera bas les bras, tente le tout pour le tout comme Ali la pointe dans la casse-bas. Toujours debout, même bombardé par vos soldats. Comme Allende dans le palais d'Amoneta. Réfléchis pas, quand les ennemis s'alignent. Comme les militants du boom pris entre Franco et Staline. J'ai des idéaux qui passent avant moi. Je me fous d'avoir ma part du gâteau, je veux casser le plat. On ira jusqu'au bout, on baissera pas les bras. On tente le tout pour le tout comme Ali la pointe dans la casse-bas. Toujours debout, même bombardé par vos soldats. Comme Allende dans le palais d'Amoneta. Réfléchis pas, tire. Quand les ennemis s'alignent, comme les militants du boum. Pris entre Franco et Staline. J'ai des idéaux qui passent avant moi. Je me fous d'avoir ma part du gâteau, je veux casser le plat.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans dieu, ni maître, ni publicité. Et si vous venez d'entendre un rappeur qui s'appelle Y, et dont le morceau s'intitule « Refaire le monde ». Voilà, donc je vous parlais précédemment du désert de la critique, un livre de Renaud Garcia publié à l'Échappée. Alors je réitère mon idée, je pense que c'est un livre qui vaut le coup d'être lu, malgré tout, même si je suis assez critique à son égard, mais en particulier si vous vous intéressez, à la possibilité d'un rationalisme en philosophie et en politique, à la possibilité aussi de reprendre un peu l'héritage des Lumières, malgré tout, de pas s'en couper, ce genre de truc, et une pensée, anarchiste contemporaine, un peu théoriquement costaud, je pense que ça vaut le coup d'être lu et discuté, peut-être. Les deux. Donc voilà, dans la partie précédente, je mentionnais que peut-être Renaud Garcia a tendance à attribuer trop d'importance à la question des idées dans la politique de nos élus et dans la parole des gens, des médias, ou peut-être trop d'importance aux mots. Ensuite, je voudrais reprendre un autre point. J'ai signalé qu'une de ses cibles philosophiques était Foucault. Et je pense que c'est ça. Alors, il n'y a pas que lui, il cite aussi Rancière, il cite des post-anarchistes. Et en particulier, il va se demander, comment on peut reprendre l'héritage des Lumières. Alors, il cite ici, alors c'est vrai que Foucault parfois est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il va dire, il va en fait être plus ou moins d'accord avec, par exemple, Bernard-Henri Lévy, Foucault, et dans la critique de la rationalité, c'est-à-dire que BHL voit dans la raison, alors le rationalisme a des moyens où c'est, c'est faufiler la tentative totalitaire, on le cite. Une phrase très très célèbre, le fascisme n'est pas issu de l'obscurantisme mais de la lumière. Les hommes de l'ombre, ce sont les résistants. Alors c'est la raison, c'est la Gestapo qui brandit la torche. La raison, c'est le totalitarisme. Alors bon, BHL a dit des conneries à peu près aussi énormes que ça. Foucault était parfois était beaucoup plus subtil et ne serait jamais abaissé à dire des trucs pareils, mais malgré tout parfois on peut se demander s'il en est très très loin. Et donc il dit, je pense qu'il est important d'histoire de l'Occident qu'on ait inventé, ça c'est Foucault et pas BHL, qu'on ait inventé des systèmes de domination d'une extrême rationalité. Il s'est écoulé beaucoup de temps pour en arriver là et plus de temps encore pour découvrir ce qu'il y avait derrière. On relève tout un ensemble de finalités techniques, de méthodes, la discipline règne à l'école, à l'armée, à l'usine. Ce sont des techniques de domination d'une rationalité extrême. Alors, ici, c'est l'héritage des Lumières qui est en question, d'une certaine manière, du type la raison ne serait pas la promesse d'émancipation qu'on croyait au XVIIIe siècle, mais serait au contraire la menace de l'uniformisation, de la discipline et au bout du compte du totalitarisme. Alors, malgré tout, je trouve que ce sont des trucs qui sont plus que discutables déjà au niveau historique. En règle générale, le fascisme s'opposait de façon assez brutale à tout ce qui pouvait ressembler à du rationalisme. C'est-à-dire, le fascisme a plutôt vanté la passion, le mouvement, la vie, des trucs comme ça, plutôt que la raison. Et le fascisme nazi, qui était une branche particulière, l'a fait plus que d'autres. Et puis d'autre part, il y a aussi quand même quelque chose d'assez amusant, c'est que, j'y ai pensé tout à l'heure en préparant l'émission, c'est que c'est assez curieux de dire que finalement la raison est advenue aux hommes au XVIIIe siècle, qu'elle a fait beaucoup de dégâts au XXe siècle, et que maintenant il serait temps de s'en débarrasser. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant les êtres humains n'étaient pas rationnels, qu'il a fallu l'Occident du XVIIIe siècle, et donc les hommes blancs, savants et parlant de latin, pour accéder à la raison et à l'usage de la raison. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Oui, je sais pas. Les hommes d'avant n'étaient pas rationnels, d'accord. Bon, si on veut. Moi, je peux pas être trop d'accord. vous imaginez bien pourquoi. Il me semble que justement, une des caractéristiques de l'humanité, c'est de faire d'usage de la raison. Ensuite, pour quelle fin? Ça, c'est une toute autre question. C'est pas du tout sûr que ce soit la raison qui fixe les fins. C'est peut-être plutôt la passion, pour le coup. Voilà. Et la passion, l'émotion, des trucs comme ça, qui sont hyper importants dans nos vies, et qu'on peut pas rayer d'un coup de plume. Mais après, on met en place des moyens pour atteindre ces fins que l'on vise. Ces moyens, en règle générale, ils découlent d'une certaine rationalité technique. Et ça, en règle générale, les hommes sont plutôt forts pour ça. C'est-à-dire que même si vous croyez à la sorcellerie, quand vous voulez tuer un ennemi, ben, vous prenez une lance. Donc là-dessus, et si votre but c'est de tuer votre ennemi, on peut dire que votre, comment dire, les moyens que vous employez sont rationnels. Après, est-ce que la fin est raisonnable ? Ça, c'est aussi une toute autre question. Peut-être que votre ennemi mérite de mourir, allez savoir. Mais, mais bon, ça, c'est encore une autre question. Et donc, ici, il me semble que accuser la raison dans ces termes-là, c'est pas forcément une bonne idée. Ensuite, je suis pas certain non plus que les mouvements de gauche actuels aient finalement renoncé réellement à l'usage de la raison. Parce que là aussi, ça me semblerait absurde, en fait. Je peux pas y croire. Les êtres humains sont ce qu'ils sont, ils utilisent la raison pour atteindre leur but. Parce que autrement ils n'atteignent pas leur but en faisant n'importe quoi, tout simplement. Après, ils peuvent se tromper sur les moyens, ils peuvent se tromper sur les fins, mais ça c'est une toute autre question, et c'est pas la question de la valeur de la raison elle-même, à mon sens. Et donc qu'est-ce qui peut nous rester des lumières dans ce cadre-là ? Et là, ben, par exemple, Garcia est intéressant parce qu'il va montrer comment Foucault, dans la discussion de l'héritage des Lumières, en particulier de l'héritage de Kant, va mettre complètement de côté la question du rationalisme, mais ça c'est assez typique de la méthode foucauldienne. Foucault prend un texte très très connu, alors connu de tous les profs de philo en tout cas, c'est « Qu'est-ce que les Lumières ?» de Kant, où Kant va définir justement le mouvement des Lumières en disant « Le mouvement, la Aufklärung, le mouvement des Lumières, c'est quoi ? C'est « Ose penser par toi-même ». Et ça je crois pas que... quiconque dans un mouvement progressiste actuel puisse renier ce mot d'ordre. Pense par toi-même, ne te plie pas au conformisme ambiant, ne te plie pas à la pensée de l'État, ne te plie pas à la pensée des grands groupes capitalistes. Alors évidemment, Kant n'aurait jamais dit ces trucs-là. Malgré tout, le mot d'ordre, lui, reste valable. Ose penser par toi-même. Ah oui. Qui, désirant un peu d'autonomie, peut renoncer à ça ? Personne. Bon, mais Foucault, lui, typiquement, va mettre ça de côté, parce que c'est pas ce qui l'intéresse, et va dire ce qui est bien dans ce texte, ce qui est formidable dans ce texte, dans Qu'est-ce que les Lumières, c'est que, pour la première fois, alors là on se demande comment Foucault sait ça, mais bon, il est toujours apte à nous dire quand est-ce que c'est la première fois que quelque chose se passe, pour la première fois, un philosophe pose la question de l'actualité. Et ça va dérouler sur l'ontologie du présent, tout ce genre de trucs. Bon, ici, ça c'est un tour de passe-passe avec lequel moi je suis pas forcément fan. Mais la rigueur, c'est ce qui intéresse Foucault. Donc après, faut voir ce qu'il en fait. Ce qui est une autre question. Mais ici, ce qui me semble aussi très discutable, c'est ce que va proposer Garcia à la place. Et en gros, Garcia nous propose de remplacer Foucault par l'école de Francfort. Alors, l'école de Francfort, c'est des gens comme Herbert Marcuse, qui a écrit La pensée l'homme unidimensionnel, pardon. C'est des gens comme Adorno et Horkheimer, qui ont publié La dialectique de la raison. C'est tout un tas. Un de leurs héritiers, c'est Habermas. Qui discute justement du débat et de la démocratie, ce genre de trucs. Et donc, il nous propose de remplacer Foucault par Adorno. Pourquoi, selon lui, enfin Adorno et Horkheimer, parce que selon lui, finalement, Adorno et Horkheimer ne veulent pas jeter les Lumières dans la poubelle de l'histoire. Ce qu'ils veulent faire, c'est critiquer les Lumières par elles-mêmes, faire une espèce de dialectique de la raison pour, en quelque sorte, sortir par une espèce de rationalisme des pièges posés par le rationalisme lui-même. Ce serait utiliser la raison contre elle-même pour l'améliorer. Et là, ça me pose des soucis, parce que il va prendre un des textes qui est peut-être pas le meilleur dans l'œuvre d'Adorno et d'Horkheimer, où ces deux auteurs identifient Kant, donc l'éminent philosophe de Königsberg, et la raison pratique, qui est catégorisé à la raison pratique, et le marquis de Sade. Et ils vont dire, finalement, Sade et Kant, c'est la même chose, parce que l'un comme l'autre nous montre, finalement, en quoi il est devenu impossible d'agir moralement aujourd'hui. Il nous montre de manière différente. Kant, en posant un impératif universel que personne, un impératif catégorique moral, que personne ne peut respecter. Pour vous donner une simple idée, par exemple, pour Kant, il est en toutes circonstances immoral de mentir. Jamais le mensonge ne peut être justifié moralement. Et donc, si on veut être moral, il ne faut jamais mentir. Et l'idée d'Adorno et d'Horkheimer, c'est que finalement, cette morale est totalement inapplicable. Et l'idée qui en découle, c'est que ça, en nous montrant des personnages complètement immoraux, cyniques, obsédés par le pouvoir et la domination sur les autres, on ne fait que poser le même diagnostic que Kant, d'une autre manière, en nous montrant quelle est la conséquence d'une morale inapplicable. Voilà. Si la morale est inapplicable, on a tous être des monstres, comme la Juliette de Sade. Voilà. L'idée, c'est que c'est la raison elle-même, une fois de plus, qui est accusée. Et en fait, quand il est donc, Garcia écrit, la raison sadienne, traitant des hommes comme des choses, selon le positivisme le plus plat, justifie sans réserve la violence et l'agression, le pur plaisir de la domination. Ah, bon, cette phrase me pose tout un tas de soucis, ainsi qu'une autre. C'est en se reconnaissant comme dominatrice en son essence et en s'inspirant à elle-même de l'horreur que la raison des Lumières peut être amenée à saisir l'origine de sa maladie. Bon, ici déjà, pour commencer, si je reviens sur la première phrase que je vous ai citée, je vois pas ce que c'est que la raison sadienne. C'est-à-dire qu'il y a la raison, ça peut être des procédures logiques d'enchaînement des idées, mais je vois pas en quoi ajouter l'adjectif sadien change quelque chose. Là encore, il s'agit des fins que l'on poursuit. Et c'est ces fins-là qui doivent être jugées, et c'est là-dessus que j'avoue que c'est difficile après de porter un jugement, mais le problème c'est pas tellement, là encore je pourrais dire, les moyens que met le personnage de Juliette en place pour, je sais pas moi, pour faire le mal autour d'elle, c'est les fins qu'elle pose. Donc la raison sadienne, en fait, je vois pas du tout ce que c'est. Et je vois pas pourquoi ce serait la raison, entre guillemets, sadienne, qui justifie sans réserve la violence et l'agression, ou le pur plaisir de la domination. Ici, très très souvent, ce qui justifie la violence, l'agression et le pur plaisir de la domination, ça peut être, ça peut être des passions politiques qu'on peut trouver, je sais pas moi par exemple, mon voisin Cohen a une épicerie, je le déteste parce que lui il a une épicerie et que moi je suis au chômage, et donc je vais vouloir lui voler son épicerie. Quel est le rapport avec la raison sadienne ici? Si en plus je trouve un dictateur ou un mouvement politique qui va me dire que comme Cohen est un juif, il faut le tuer parce que c'est un juif, je vais être content parce que j'aurai l'idéologie qui justifiera mes pulsions criminelles, ma violence, ma jalousie et toutes mes petites passions, tristement humaines. Et à partir de là, dans ce cadre-là, je vais mettre en place effectivement tout un tas de trucs pour lui piquer son commerce, comme le salaud que je suis. Mais ici, je vois pas en quoi ce serait la raison sadienne en fait. Et de ce point de vue-là, si j'avance, après je peux me dire, je vois pas pourquoi la raison serait dominatrice en son essence. Ici, je peux pas du tout être, le suivre. D'autant plus que, dès les Lumières elles-mêmes ont aperçu le problème à cause d'un auteur comme Lemaître, qui avait écrit L'Homme-Machine, ou d'un autre auteur utilitariste, Helvétius, que Diderot a critiqué. Parce que justement, l'utilitarisme, ça va être l'idée que la justice doit se réduire à un calcul de l'utilité, par exemple, et que toute autre considération est vaine et métaphysique, vide de sens. Donc quelqu'un comme Helvétius veut dire, il faut calculer l'utilité. L'utilité, ça va être quoi? Ça va être le bien-être des individus, le bien-être global, etc., etc. Et en fait, et on va trouver des choses un peu identiques chez Lemaître, et en fait, tout ça, c'est déjà critiqué chez Diderot, qui va mettre en avant le rôle de la sensibilité dans la vie humaine, le fait que justement, même si on est rationnel, et peut-être même plus encore si on est très rationnel, on s'aperçoit vite qu'il est très très difficile de tout réduire à des calculs. C'est-à-dire que ce qui fait la beauté et la force des mathématiques, c'est que justement, elles nous parlent jamais du monde réel. En mathématiques, vous avez une logique imparable, parce qu'elle est purement rationnelle, enfin purement intellectuelle, mais que on sait que la réalité des relations humaines, par exemple, se réduit pas à des équations, et pourra sans doute jamais le faire. Et être irrationnel dans ce cadre-là, à mon avis, c'est plutôt vouloir étendre les mathématiques à un domaine qui n'est pas le leur. En l'occurrence, par exemple, le calcul, la morale, la justice, comment ne pas faire du mal aux autres, etc., etc. Toutes questions très importantes et peut-être beaucoup trop concrètes et beaucoup trop floues et vagues pour être résolues par un calcul même très savant. Donc ça, c'était un point sur lequel je voulais insister, c'est que je suis pas sûr que remplacer Foucault par Horkheimer, si on veut être rationaliste, soit une très très bonne idée. Voilà, donc on va faire une petite pause musicale et puis on reprendra après.
banlieusard et le gosse d'immigré manque de civisme et que la France l'appelle à corps et à cri. Qu'elle veut de lui un effort de citoyenneté. J'ai décidé, moi, de lui donner le meilleur de moi-même. Ce que je sais faire de mieux. Ce que je suis de mieux. Je te le donne, mon beau pays. Je viens vous léguer mon dégoût, mon écho, mon sale goût du déclin et le bout de mes mégots. Bon gré, mal gré, en grand, en grain, un brin de mon chagrin, surtout s'il est gros. Mon rap pour des clous, mes rares coups d'éclat, mon dépit et en dépôt tous mes pires défauts. Mes torts, mes tares, mon sale caractère et même mes factures de prolétaire s'il le faut. Mon envie de gerber, mon jargon vous larguez, mon genre bagui et mur tagué, mon argot, mon orgueil, mon ercaille, la crasse de mon bercail, le plus bel ongle incarné de mes orteils, mes embrouilles, bronchilles, mes failles, entailles, ma tambouille, mon riz et lentilles des Antilles, ma pagaille, ma gouaille, ma grisaille, ma ferraille et mon attirail de tours qui partent en vrille, mes excès, mes abus, mes rêves au rebut, mes habits bien abîmés quand j'ai trop bu, mes plombés toujours plombés qui sentent bon, le vagabond, les escaliers nauséabonds, ma peur du tombeau, mes procès verbaux, mon débit pour flamber, pour faire beau, mon humour en ré mineur et quart de. Et ses carnets dans ses cartons, je vous traite de con. Si le gouvernement veut toujours de moi, il me trouve en banlieue nord, escalier P.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et vous venez d'entendre Cazet, qui avec un morceau très bref qui s'intitule « Mon plus bel hommage ». Ce soir, je vous parle du « Désert de la critique », un livre de Renaud Garcia, publié chez L'Échappée. D'ailleurs, L'Échappée... comment dire, c'est une collection, la collection Versus. Et je vous recommande cette collection. Elle est dirigée par Patrick Marcolini. Et il a publié cet été, en juin, je crois, un bouquin qui s'intitule Misère de la théorie contre Althusser et le marxisme anti-humaniste. Un livre d'Edward Thompson, un historien anglais plutôt intéressant. Bon, c'est un autre bouquin de la même collection que je vous recommande, collection Versus, donc de la maison d'édition L'Échappée. Et là, moi, je vous parle du désert de la critique, donc de Renaud Garcia, qui est aussi un livre que je trouve vachement intéressant et qui donne à penser. Même si depuis que l'émission a commencé, je le critique. Mais à la rigueur, je vous dirais, les livres intéressants, c'est les livres qu'on a envie de critiquer, parce que justement, ils sont, comment dire, ils nous réveillent un petit peu. Voilà. Donc, et puis c'est aussi parce que c'est un livre avec lequel il y a plein de trucs avec lesquels non, je suis d'accord. Quand on lit un truc avec lequel on est intégralement d'accord, c'est quand même très très gênant quelque part. Et donc là, l'esprit d'emmerdeur ressort et ça donne envie de chercher les trucs qui vont pas. Enfin, les trucs qui vont pas, les trucs avec lesquels en tout cas on n'est pas d'accord. Alors, donc, José m'a signalé que j'étais peut-être un peu trop technique la fois précédente. Parce que, en gros, la question que je posais, c'était comment est-ce qu'on peut conserver l'héritage des Lumières aujourd'hui? Sans forcément renier l'idée que la raison est meilleure conseillère pour aller vite que justement les passions ou l'émotion. Meilleure conseillère quand on veut savoir comment faire quelque chose. D'une certaine manière, j'avais tendance peut-être à essayer de remettre la raison à sa place, c'est-à-dire montrer que, indépendamment des idéologies qui vont dire pour ou contre la raison, les êtres humains ont tendance à avoir un comportement qui utilise la raison de fait. Alors, voilà, deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est sur la question de l'aliénation. C'est-à-dire que Garcia va dire, voilà, alors c'est assez intéressant sa critique, et je pense qu'elle mérite aussi d'être prise en compte. Il va dire, qu'est-ce que fait Foucault au sujet du pouvoir? Foucault nous dit deux choses. Va nous dire, d'une part, le pouvoir est omniprésent, le pouvoir ne se limite pas à l'État. Il s'agit, quand on pense le pouvoir, il ne s'agit pas seulement de penser à l'État et à l'oppression qu'il exerce sur ceux qui ne sont pas dans l'État. Il s'agit aussi de penser le pouvoir partout où il est, c'est-à-dire dans les relations finalement, dans les rapports de force, et très souvent donc dans toutes les relations humaines. Donc de ce point de vue-là, il y a omniprésence du pouvoir.
Et ça, effectivement, ça, c'est, comment dire, c'est une idée qui est assez intéressante, qu'on a pu trouver développée, peut-être indépendamment, totalement indépendamment de Foucault chez les féministes des années 70, dans l'idée qu'il n'y a pas de relation, finalement, il n'y a pas de relation privée, où la politique ne jouerait plus. La relation entre un homme et une femme, ou entre un mari et sa femme, est une relation politique aussi, une relation informée, modifiée par les jeux de pouvoir politique. Et ça, du point de vue des féministes, c'était une idée importante et forte, je crois. Alors, ce n'est pas différent parce que ça se passe dans la chambre à coucher. Donc là, il y a quelque chose qu'on trouve effectivement qui est propre à la pensée des années 70, dont il faut garder, je pense, beaucoup de choses. Mais d'autre part, ce que va dire Foucault, c'est que si le pouvoir est partout, et là on va dire autre chose d'une certaine manière, c'est une autre idée mais qui est liée à la première, alors le pouvoir va être productif. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas simplement, il ne s'agit pas simplement d'opprimer, il s'agit de produire. Et par exemple, on pourrait dire que, je sais pas moi, la façon dont l'État au Moyen-Âge, enfin, comment dire, au XVIIe siècle, donne du pouvoir, un pouvoir légal au père de famille, un pouvoir énorme par rapport à aujourd'hui, c'est quelque chose qui va justement produire des relations entre les gens. Qui va produire des rapports père-fils, des rapports père-fille, des rapports père-mère très différents. Mais alors, ce que remarque après Garcia, et là il n'a pas forcément tort, c'est que si on pense que le pouvoir est omniprésent et qu'il est productif, il devient assez difficile de penser la notion d'aliénation. Alors la notion d'aliénation, ça aussi c'est très philosophique, c'est l'idée qu'on trouve chez Marx, développée en 1844, c'est l'idée que finalement le capitalisme rend le travailleur étranger à lui-même, qu'il fait perdre en quelque sorte un rapport authentique à soi. Alors sous deux aspects, un aspect objectif, un aspect subjectif. L'aspect objectif, c'est que le travailleur, en gros, dans l'usine, peut plus se reconnaître dans ce qu'il a fabriqué, parce que il a apporté, je sais pas moi, il construit une bagnole, il a mis de l'aluminium entre la portière et le reste de la carrosserie. À la fin, il y a une voiture qui sort, qui est terminée, mais vu le peu de travail qu'a accompli l'ouvrier sur cette voiture-là, il peut pas se dire c'est moi qui l'ai fait. Donc de ce point de vue-là, il est coupé de la réalisation de son travail, et c'est quelque chose de très extrêmement frustrant. C'est-à-dire qu'il a en gros l'impression, à la fin de la journée, il a travaillé sur, je sais pas moi, 200, 300 voitures, et il a l'impression d'avoir rien fait. Et puis d'autre part, l'aliénation, elle est aussi subjective chez Marx, c'est le fait que, comme l'homme ne se réalise plus dans son travail, puisqu'il a plus l'impression de rien faire par lui-même, qu'est-ce qu'il attend de la journée ? Ben, il attend le repos. Et le repos, Marx va le voir comme quelque chose de finalement qui n'est plus propre à la nature humaine, c'est propre plutôt au côté animal de l'homme. C'est-à-dire le repos, ça va être dormir, manger, remplir les fonctions biologiques. Et Marx va dire, on est aliéné d'une deuxième façon, là, subjectivement, c'est qu'on va se réaliser dans l'animalité plus dans l'humanité. Alors évidemment, ça, ce marxisme-là, pour Foucault, il est impensable. Parce que, en gros, il va y avoir l'idée que le sujet, c'est un produit, le sujet humain, y compris l'ouvrier, c'est un produit des relations de pouvoir. Et de ce point de vue-là, il n'y a plus aucune authenticité perdue. Parce que il n'y a pas quelque chose qui précéderait les relations de pouvoir, qui serait l'homme, et qu'il faudrait retrouver derrière l'oppression du capitaliste et de l'État. Et ce que dit Garcia, c'est qu'à partir de là, comment est-ce qu'on peut contester quoi que ce soit sans forcément retomber dans l'idée que une espèce de jeu cynique de rapport de force. Si je critique l'État et le capitalisme, c'est pas parce que je veux retrouver quelque chose de plus fondamentalement humain, c'est parce que je veux le pouvoir à mon tour. Ou même si je me leurre en croyant que je veux quelque chose de plus humain, ce que je produirai, ce sera un autre rapport de pouvoir, un autre système de pouvoir qui produira d'autres types de sujets. Bon. Et la réponse qui a été donnée par Butler à ça, la réponse, c'est Judith Butler, donc qui a pensé le genre et la façon d'y échapper, c'est que comme on est toujours pris dans des jeunes normes, il va falloir subvertir les normes. Donc il ne s'agit plus de contrer l'oppression, il s'agit de subvertir la normation ou la normativité d'une société. Et pour Garcia, c'est un peu trop fait, parce que si on fait que subvertir des normes, finalement, là encore, on joue à une espèce de jeu, c'est une espèce de petit jeu de la case vide, là où il faut, on pourrait imaginer, où il faut reconstruire une image après qu'elle ait été, comment ça s'appelle ?
Le taquin.
Ah, je savais pas. Donc le taquin. Donc il faut reconstruire une image une fois qu'on l'a défaite en jouant sur la case vide. Bon. La case vide, c'est un truc qui permet à Deleuze de défier le structuralisme, mais bon, peu importe. Et là, on pourrait se dire, il s'agit que de reconfigurer une image avec, finalement, les mêmes petites cases en jouant sur la case vide. Hop là, j'ai une case vide. Donc, par exemple, la case vide, ça pourrait être le trans. Le trans qui est justement pas assignable à une identité. Et donc, paf, on bousille l'image dominante en jouant sur cette case vide et puis on essaie d'en reconfigurer une autre. Et pour quelqu'un comme Garcia, effectivement, là, il ne peut pas y avoir finalement de révolution là-dedans. Il va y avoir juste une reconfiguration des forces en présence. Et donc, il n'y a aucune échappatoire à la société actuelle. Alors, c'est peut-être une fois de plus attribuer trop de poids aux idées ou à des images. Parce que, après tout, il se pourrait qu'un changement d'image, justement, soit révolutionnaire. Faut voir. Ensuite, un autre souci, c'est que je suis pas sûr que. Alors, il essaie de. Contre ça, il va essayer de remettre en route, de revaloriser la notion d'aliénation. Alors, il y a des trucs assez intéressants parce qu'il dit, voilà, si on veut comprendre un peu l'aliénation aujourd'hui, il faut un peu lire les psychologues et les psychologues du travail, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux travailleurs. Donc, il cite Christophe Desjours, il cite Yves Clos, c'est des gens comme ça qui ont étudié la souffrance au travail. Et il va essayer de donner un critère objectif d'aliénation dans le fait que, justement, voilà, il y a aliénation, en gros, quand quelqu'un souffre au travail et quand il a l'impression que tout est fait et tout est mis en place pour l'empêcher de bien faire son travail et de se réaliser à travers son travail. Alors, bon, ici, ça met en place des trucs assez compliqués parce que, bon, je suis pas sûr que, dans une société capitaliste où le salariat, est la norme et le salariat, où il s'agit finalement d'enrichir son patron, je suis pas sûr qu'on puisse avoir envie de se réaliser dans son travail. Et je suis pas sûr que, enfin bon, là-dessus, quand on prend des gens comme Google, c'est un peu compliqué parce qu'une boîte comme Google est totalement opposée à l'aliénation. Ils veulent que leurs salariés se réalisent à travers Google et que les salariés travaillent. Alors ça, il montre un petit peu le. C'est vrai que le côté managérial a repris. Garcia le dit, il dit bien que a repris les thèmes de la réalisation de soi. Il les a repris à fond dans le boulot. Ensuite, le souci, c'est que le critère qu'il donne de souffrance, il a été vu par les grandes entreprises capitalistes. Qui ont intérêt, par exemple, pour leur cadre, à justement que les gens soient heureux au travail. Parce qu'un cadre, un cadre supérieur de 40 ans, hyper qualifié, qui est la cible de tous les chasseurs de tête des boîtes capitalistes, faut pas se leurrer, hein, les boîtes qui vont le recruter, elles vont chercher à le rendre heureux. Donc on va lui fournir une crèche pour ses gosses, on va lui fournir une salle de gym dans l'immeuble où il travaille, on va lui donner une assurance que s'il meurt, sa veuve touchera un salaire très élevé pendant 10 ou 15 ans, enfin, et tout ça, et là je vous parle pas, c'est pas des fictions, hein, c'est des trucs réels. Et donc de ce point de vue-là, je pourrais dire, oui, la souffrance au travail, c'est peut-être pas un critère suffisant, parce que vous avez des grandes boîtes capitalistes qui vont lutter contre la souffrance de leurs employés de haut niveau au travail. Voilà, le cadre sub, il ne faut pas qu'il souffre si on veut le garder. Et après, le problème, c'est est-ce qu'on peut imaginer se réaliser quand on travaille à la chaîne ? Alors, vous allez me dire, ouais, le travail à la chaîne, ça n'existe plus, il n'y a plus d'ouvriers, c'est des conneries. Je ne sais pas si vous me diriez ça, d'ailleurs, mais des gens, en tout cas, le diraient. Mais bon, si vous travaillez dans un call center, c'est du travail à la chaîne. Les joyeux organisateurs du travail scientifique ou de l'organisation scientifique du travail ont trouvé des tonnes de moyens de rationaliser l'activité, c'est-à-dire de la rendre plus productive, ce qui permet de limiter le temps de travail, donc de limiter le salaire et d'augmenter la productivité, mais aussi le malheur des gens qui les emploient. Et là-dedans, c'est-à-dire que est-ce que c'est d'aliénation dont on a besoin, je sais pas. Est-ce que par exemple des notions toutes bêtes qui supposent pas de nature humaine, qui supposent pas de un truc à réaliser qui serait transcendant la société, est-ce qu'on peut dire que les gens sont opprimés, sont frustrés, sont rendus malheureux? Est-ce qu'on a besoin de la notion philosophique d'aliénation et tout ce qu'elle draine pour parler de ce malheur qui touche tout un tas de gens à travers le monde et qui est directement lié à l'organisation capitaliste du travail? Là-dedans, je suis pas sûr qu'on ait besoin de philosophie marxiste tout court, d'ailleurs. Enfin, de philosophie ou de philosophie, ouais. Philosophie marxiste ou philosophie tout court. Donc, la notion d'aliénation est-elle bien nécessaire? Je sais pas. Est-ce que l'idée que les relations de pouvoir sont partout et qu'elles sont productives est un obstacle à la révolution? J'ai des gros doutes aussi. Parce que après tout, il y a des tas de révolutions qui sont produites sans que les gens aient en tête le projet même de révolutionnaire. Il s'est juste trouvé que la vie était devenue beaucoup trop insupportable pour eux et qu'ils ont mis en branle des processus qui ont abouti à la chute d'un régime politique, à la chute d'un régime économique. Là aussi, on pourrait se dire que peut-être Bruno Garcia accorde trop d'importance aux idées philosophiques. Et je voudrais finir un peu là-dessus parce que parfois, on a le sentiment que ce qu'il regrette, c'est la division des mouvements progressistes. Et qu'il en accuse un petit peu, alors je sais pas si c'est le cas, mais c'est parfois l'impression qu'il donne, les mouvements qui sont encore qui sont ultra minoritaires, faut pas se leurrer, hein, le type de ceux dont on fait nous un petit peu l'apologie à travers la musique, les mouvements de trans, PD, Gwyn, tous ces trucs-là qui justement, eux, ont du mal à se revendiquer de l'universel, parce que l'universel leur a longtemps chié dessus, qu'ils ont du mal à se revendiquer justement de la gauche classique, parce que la gauche classique n'a longtemps pas voulu d'eux, et toujours pas d'ailleurs, dit José, et donc ici, est-ce que c'est eux, ou les véganes, ou des gens comme ça, est-ce que c'est eux qui sont les causes des déboires de la gauche actuelle? Comme il l'écrit à un moment, il dit, voilà, sur le quatrième de couverture, occupé à déconstruire, à se déconstruire à l'infini, les gauches radicales, entre guillemets, ont négligé le terrain du social, et pour lui, pour se pencher sur le terrain du sociétal, qu'une extrême droite opportuniste a investi en exploitant la détresse des perdants de l'histoire. Pour aller vite, est-ce que c'est la faute des PD si les gens votent Front National? Je pense qu'on peut raisonnablement répondre que non. D'ailleurs, c'est même pas la faute des Arabes. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui votent Front National, qui n'ont jamais vu un Arabe de leur vie, enfin j'exagère, mais en tout cas qui n'en voient pas dans leur quartier. Et donc là-dessus, je pense que là encore, la division de la gauche, enfin, comme on se disait avec José hors antenne, la division des mouvements progressistes, leur éparpillement est réel, mais c'est peut-être beaucoup plus lié, je sais pas moi, par exemple, à 1989, la chute de l'URSS, Mitterrand, les jeux politiques qu'il a pu jouer, la absolue domination actuellement du capitalisme qui fait que les gens croient plus tellement en un mouvement de masse, le fait aussi, comme je le disais tout à l'heure, que ben il y a des tas de gens qui, pour des raisons personnelles diverses et variées, ne trouvent pas de place à l'intérieur de certains mouvements de gauche, parce que peut-être que ces mouvements de gauche ne les rejettent pas en tant que tels, mais n'expriment pas ou ne s'attaquent pas aux causes de la souffrance ces gens-là. Là-dessus, je pense qu'il y a tout un tas de questions qui sont qu'on peut pas résoudre en appelant à la raison, à l'universalisme, à la vérité, à la liberté, parce que c'est des mots qui sont beaucoup trop gros entre guillemets pour pour recouvrir les différences subtiles et les problèmes subtils aussi qu'on peut rencontrer dans notre société. Et puis d'autre part, on pourrait se dire que justement tous les trucs qui sont liés à des mouvements ultra-minoritaires, je vous citais donc les trucs trans, PD, Gwyn, peut-être que les trans, les PD et les Gwyn qui réfléchissent à la façon de former un mouvement politique sont en train de reconstruire du commun. Ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent intégrer leur lutte à une lutte capitaliste globale, anticapitaliste globale. Et là-dessus, justement, il me semble que, mais peut-être que Garcia serait d'accord avec moi là-dessus, il me semble que l'universel, mais je crois qu'il est d'accord, l'universel c'est quelque chose qui se construit, c'est pas quelque chose qui est donné. Et il doit se construire, mais à partir de quoi? Il doit se construire aussi à partir des différences qui nous constituent et qui font nos vies. Et là-dessus, justement, il faut peut-être partir des différences pour arriver à construire quelque chose de commun. Et pas s'imaginer qu'il y aurait un commun à présupposer pour. Parce que quand on fait ça, peut-être qu'on écrase justement toutes les différences et qu'il y a des tas de gens qui ne s'y retrouvent plus du tout, pour le coup. Donc voilà deux, trois peut-être pistes. José veut dire un mot?
Oui, juste, j'ai l'impression que quand même le bouquin, là on en parle tout à la fin, mais le bouquin est vendu là-dessus, avec cet argument-là. C'est quand même la quatrième de couverture, on regarde toutes les recensions des bouquins, ce qu'il y a sur le site de l'Échappée, c'est vendu comme la gauche et fragmentée à cause de minorités jeunes qui se regardent le nombril et qui pensent qu'il y a leur petit problème. C'est quand même l'argument principal. Alors c'est vrai que ça peut être un bouquin hyper intéressant pour des philosophes, etc. Toute la partie que tu as évoquée au début, il n'est pas vendu comme ça le bouquin. Ça, je trouve ça très très gênant déjà au départ. Et puis aussi, bah, tu as évoqué justement les transgenres, etc. On n'est pas transgenre pour faire plaisir à Michel Foucault, ni pour faire du mal à Renaud Garcia.
Oui, pour faire plaisir à Judith Butler,
ça
n'a rien à voir.
On n'est pas forcément dans une perspective révolutionnaire. C'est pas un choix révolutionnaire d'être ceci ou cela. C'est, on est ceci ou cela, et à partir de là, on peut avoir un point de vue anticapitaliste qui n'est jamais écouté, et donc on est obligé de créer aussi une structure qui permette d'exprimer cet anticapitalisme, ou cet anti-ceci ou cela, ou ce pro-ceci ou cela. Et c'est pas forcément justement cette vision très très intellectualiste, je trouve, qui est vendue par Renaud Garcia, en tout cas, ou sa maison d'édition, je sais pas, parce que là j'ai pas lu le bouquin entier, mais malheureusement je trouve que cet argument là est très léger, et ça rend ça me rend personnellement l'ensemble assez antipathique, alors même parce que dans toute la première partie, moi j'y suis un petit peu moins sensible, n'étant pas philosophe. Voilà le petit mot que je voulais dire.
D'accord, si c'est l'argument de vente, effectivement, c'est maladroit, d'autant plus qu'à mon avis, ça ne rend pas justice au livre, qui est, à mon avis, quand même, qui vaut mieux que ça. Après, oui, c'est un truc qu'on trouve un peu partout, ça va être, malgré tout, l'idée que qu'on a joué le genre contre la classe et que aujourd'hui on met en avant les luttes, par exemple homosexuelles ou transgenres, pour oublier la lutte des riches contre les pauvres. Ça a peut-être été le cas effectivement, mais là on pourrait dire c'est un petit peu comme quand le colonialisme français utilisait l'universalisme pour opprimer des gens. C'est pas parce qu'on utilise une bonne idée à des fins dégueulasses que l'idée devient mauvaise. Et donc il est tout à fait possible que, par exemple, le Parti socialiste ait fait passer le mariage pour tous, qui n'est pas forcément au goût des transgenres d'ailleurs, fait passer le mariage pour tous, comment dire, comme une mesure de gauche pour faire oublier sa politique fiscale de merde. Bon, mais ici, il faut pas non plus, là encore, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Donc, bon, on va s'arrêter là. Moi, je vous conseille quand même de lire le bouquin, ne serait-ce que pour le critiquer. parce que, bon, bah, si vous êtes intéressé par ce type de thématique et que vous avez du mal à réconcilier éventuellement, comment dire, vos pulsions homosexuelles politiques ou pas d'ailleurs, et vos pulsions, comment dire, anticapitalistes, ben, ça peut poser des questions et ça peut vous aider à y réfléchir. Voilà. Au revoir et à la prochaine.
Mecs du milieu hétéronormés à t'en crever les yeux, qui changent en apparence leur comportement, font de belles phrases et acquiescent gentiment en léchant les bottes de leurs potes féministes, voire même se revendiquent antisexistes, mais n'ont rien changé à leur façon de penser. Ils continuent d'écraser les minorités en prônant l'égalité, empêchent les mécontentes de parler de peur de perdre leur position qu'ils se cachent bien d'accepter, mais ne font surtout rien pour la refuser. Courbette par devant, coup de dent par derrière, je désespère de les voir changer, de les voir penser qu'il n'y a pas de lutte possible si on laisse pas tomber nos privilèges.
Alors pour les féministes, y'a pas de repos, faut répondre à tous les coups dans le dos. Pas le temps de respirer, espoir ruiné, de penser que le message est passé, c'est trop beau pour être vrai. Se rendre compte que tout ça c'est du pipeau et que personne n'a pigé, et que tout le monde s'en pipait, fin de comprendre sans désapprendre. Et au final se comporte en bon petit soldat du patriarcat. On rendra chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de garde baissée, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on prévient.
Au quotidien, difficile de les reconnaître, ils agissent en bon prophème, ces traîtres. Mais ils commettent des erreurs de temps en temps, des lapsus, des phrases, des comportements qui te montrent qu'ils sont vraiment ce genre de mecs totalement déconstruits, qui font la bouffe, la vaisselle et compagnie. Mais quand il s'agit de bricoler, ils t'enlèvent les outils des mains parce qu'il paraît
ils en sont persuadés qu'une bite vaut mieux qu'un vagin. Sans commentaire sur leur vision binaire, ces personnes pullulent dans notre milieu libertaire. Et ils sont nos potes, nos amants, nos frères, alors pas facile de les faire taire. Avec
attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de cartes baissées, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on te prévient.
J'ai la beuge quand je vois des amis après quelques verres enquillés se comporter en pourriture finie. Le politiquement correct s'envole, les masques tombent dilués par l'alcool. Les vieux tics réapparaissent plus vite
dans les vapeurs éthyliques.
Et l'accro révèle les ennemis, mieux que le marc de café quand on lit. Et le relou ressurgit,
il est toujours vivant.
Il ne s'est pas assagi,
il est bien présent.
Demain c'est sûr, il reviendra et on l'attend.
On rendra chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de gardes baissées, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on te prévient.
En cas d'agression, pas d'outils sont là à soutenir le pote, le frère ou juste le mec qu'ils connaissent pas. Parce qu'il ne veut qu'un doute que les meufs s'exagèrent. Ça parle de viol pour faire réagir, alors qu'en réalité c'est juste des histoires futiles pleines de banalité. Oh c'était pas un viol, y'a pas eu de pénétration. Oh elle l'a cherché aussi, elle l'a allumé.
Ça me fout trop la haine pour pleurer sur ce genre de réflexion à gerber.
L'ennemi étant chacun d'eux tapis à l'intérieur, attendant son heure pour revenir, attendant une erreur pour ressurgir.
On rendra chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de gardes baissées, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on te prévient.